Le message aujourd'hui est important. J'ai donné le titre « Notre Dieu Saint ». Notre Dieu Saint. Et je vais commencer avec une lecture dans Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 4. Et puis 1 Pierre chapitre 1, versets 15 et 17. Donc lisons dans Ésaïe chapitre 6. À partir du verset 1. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Et puis on va lire dans 1 Pierre chapitre 1 et ce sont les versets 15 à 17. 1 Pierre chapitre 1, versets 15 à 17. 1 Pierre chapitre 1, et c'est le verset 15. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Notre Dieu est le Dieu des Écritures, le Dieu qui s'est révélé tout au long de l'histoire humaine. Il n'est pas du tout comme le Dieu des païens ou des peuples divers. Il est le Dieu saint. Il est séparé de tout mal. Par la foi en Jésus-Christ, nous passerons l'éternité dans la présence de celui qui est saint, saint, saint. Et pendant notre vie ici-bas, nous sommes le temple de son esprit qui est saint. Saint, saint. Tout chrétien devrait donc se conduire avec crainte, avec respect, avec sérieux, pendant le temps de son pèlerinage ici-bas. Donc on va passer en revue les aspects de Dieu qui peuvent être cueillis facilement par la lecture des premiers livres de la Bible. Okay? Donc nous voyons dans la Genèse que Dieu est le Dieu éternel, qui a appelé en existence notre univers, c'est-à-dire la tridimension du temps, matière et espace. Il est le Créateur tout-puissant. Il est le Dieu qui entretient fidèlement les relations avec les hommes. Il est le Dieu qui a insisté sur la perfection et la bonté de sa création. Toute la création était bonne avant le péché. Il est le Dieu qui ne supporte pas le mal. Et il est le Dieu qui donne espoir. Nous voyons ces choses à travers le livre de la Genèse. Puis dans l'Exode, nous apprenons rapidement que ce Dieu fidèle à ses promesses est aussi le Dieu législateur. Il donne la loi et il exécute la loi. Il est même le Dieu terrifiant, un feu qui dévore le mal et la rébellion. Dans le livre de Lévitique, nous apprenons que Dieu est saint. C'est pour cela que dans l'Exode et Lévitique, Dieu définit le péché afin que son peuple ne s'égare pas de lui et ne tombe sous le jugement. Donc je résume un petit peu cette liste. Le Dieu des Écritures est éternel, il est créateur, il est tout-puissant, il est bon, il est fidèle, il est saint. Donc je vais définir ce mot « saint ». Par l'expression « la sainteté de Dieu », nous invoquons trois aspects des perfections de Dieu. Dieu est d'une pureté morale parfaite. Dieu est le sens même de la justice absolue. Et Dieu est infiniment séparé du mal. Donc on en parle de la sainteté de Dieu. On invoque ces idées-là. Nous, au contraire, nous, en tant que pécheurs, nous sommes, en comparaison ou en contraste avec Dieu, nous sommes infiniment séparés de Dieu. Ce n'est pas un tout petit peu séparés de Dieu. On est infiniment séparés de Dieu dans nos péchés. On est infiniment impurs et on est absolument tordus ou injustes, si vous préférez. Dans le psaume 144, la parole pose cette question. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Nous, on n'est rien. Pourquoi Dieu pense à nous? La réponse à cette question, c'est que nous sommes l'unique partie de sa création qui reflète l'image de Dieu. Nous étions créés en son image dans le but d'entretenir une relation aimable avec Dieu. Et bien que cette relation ait été détruite par la désobéissance, Dieu continue à nous aimer et nous attirer vers lui, vers cette relation aimable avec lui-même. Dieu a fait l'ultime expression de cet amour quand il a envoyé la seconde personne de la Trinité, le Fils éternel, pour nous racheter de nos péchés. C'est seulement par l'évangile du Fils de Dieu, que les pécheurs ont pu retourner sous le regard bienveillant de Dieu. Le Fils éternel s'est humilié en devenant l'un de nous pour partager et connaître notre misère, puis pour enlever le poids infini de notre culpabilité. Sa mort sur la croix n'était pas une mince affaire. Trois fois, Jésus priait que les souffrances de la croix et de la mort lui soient écartées. Mais c'est pour cela même qu'il est venu, pour réconcilier l'homme infiniment impur et coupable avec le Dieu infiniment juste et saint. En Jésus-Christ, Dieu a pris sur lui-même tous nos péchés. Puis, par la foi en Jésus-Christ, Dieu fait de chacun de nous ses enfants. Et par la foi en Jésus-Christ, Dieu nous fait naître de nouveau chaque croyant par son Esprit Saint. Le Saint-Esprit habite désormais et donc éternellement dans les enfants de Dieu. C'est pour cela que Dieu attend du respect de ses enfants, que ses enfants reflètent sa personne dans le monde, donc comme un témoignage, et qu'ils soient saints. Maintenant, je vais parler de la sainteté des croyants. Je parle pas de sainteté des non-croyants, je parle des croyants. Dans Lévitique, chapitre 20 et verset 26, Dieu dit, « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. » Le mot « saint » signifie « mis à part », donc « mis à part », « par mis à part », « pour », ça signifie « saint » ou « sacré ». Une chose sainte est réservée. C'est de la propriété privée. Quand Dieu dit que nous sommes saints, ceci veut dire qu'il a mis sur nous sa marque d'appartenance. Le croyant appartient à Dieu et devrait vivre en conséquence pour Dieu, selon la pureté de Dieu. Paul a enseigné sur l'importance de la consécration volontaire des croyants, là dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Une partie de cette consécration est de reconnaître et de respecter la sainteté de Dieu. L'apôtre Pierre, il cite Moïse pour nous les chrétiens, dans 1 Pierre 1,16, il dit, « Vous serez saints. » Car je suis saint. Ça vient de Lévitique. La sainteté est l'aspect moral de la vie des croyants, la pureté morale dans le respect de Dieu. Je vais lire dans 1 Pierre chapitre 1, versets 14 à 16. 1 Pierre chapitre 1, versets 14 à 16. Comme des enfants, obéissant, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saint car je suis saint. Donc, dans ce paragraphe, Pierre parle d'autrefois. D'autrefois. Il parle de la vie non chrétienne avec ses péchés et ses pratiques impures. Le verset 14 reconnaît qu'avant Jésus-Christ, avant de croire en Jésus-Christ, beaucoup de monde a une moralité différente que celle que Dieu attend de la part de ses enfants. Donc, ces choses-là devraient être du passé. Et puis, Pierre parle aussi de désormais. Désormais. Selon le verset 15, Dieu nous exhorte à une vie entièrement sainte dans tout votre comportement. Pas dans des catégories de ce que nous faisons. Dans tout notre comportement, puisque notre Dieu est saint. C'est ce que nous devons faire. Je ne dis pas que c'est ce que nous faisons, mais c'est ce que nous devons faire. Nous devons agir dans la sainteté. Paul dit que c'est logique, hein, dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Et puis, Pierre parle de l'obéissance dans ce paragraphe. Il dit dans le verset 14, « L'obéissance invoque notre volonté. » On peut être forcé à obéir, mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut que nous aimons Dieu et que nous agissons de notre bonne volonté. Notre relation avec Dieu, notre amour pour Dieu. Dieu désire le cœur du croyant. L'objectif ultime du salut et le rétablissement d'une relation bénéfique, aimable, avec le Dieu saint. À l'époque de la loi, et nous ne sommes plus sous la loi, mais à cette époque-là, seul le souverain sacrificateur avait le droit de passer à travers le voie de séparation pour s'approcher de Dieu dans le lieu très saint, une fois par année. au moment de la crucifixion, Dieu lui-même a déchiré ce voile de séparation pour montrer que l'accès au Dieu Saint est restauré par le sang de Jésus. Car le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Maintenant que Dieu a rétabli la relation bénéfique, il veut que les croyants aient des vies pures dans le domaine pratique. L'apôtre Jean dit que le fait d'avoir l'espoir de passer l'éternité auprès de Dieu encourage le croyant de se purifier afin de ressembler à son Dieu. Ça, c'est dans 1 Jean, chapitre 3, verset 3. Attention de ne pas ressembler aux chrétiens de Corinthe qui voulaient vivre en toute liberté. C'est Dieu qui nous reçoit dans sa famille et dans son intimité. C'est lui qui dit « Voici ce qui me plaît » et qui dit « Voilà ce qui ne me plaît pas ». Je vais lire dans Proverbe. Proverbe chapitre 3. Et c'est les versets 5, 6, 7 et 9. Proverbe chapitre 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. On aime chanter ce verset, n'est-ce pas? Ce sont de belles paroles qui parle du salut, par la foi, et puis la bénédiction de Dieu sur les croyants. On aime ça, n'est-ce pas? Mais les prochaines deux parties, on n'aime pas autant. Hein? Donc je vais lire verset 7 et verset 9. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et, oh voilà, détourne-toi du mal. Et puis sauter au verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. On dit quoi? Me détourner de mes activités mondaines préférées? Quoi? Me séparer de mes biens et de mon argent? On n'aime pas trop ça. Les versets 7 et 9 montrent que le croyant doit se séparer du mal. Donc, être saint. Et le croyant doit montrer son appartenance à Dieu par des offrandes matérielles et monétaires. Donc, comment faire pour passer des pratiques d'auparavant dans l'incrédulité pour vivre désormais dans l'obéissance de la sainteté? La véritable consécration, c'est le libre choix de suivre et de servir le Seigneur Jésus. Inutile de servir Dieu dans l'impureté et l'immoralité. Vous devez servir Jésus dans la pureté morale. D'abord, il faut reconnaître l'impureté de l'ancienne vie. Ceci veut dire changer vos pensées par la connaissance de la parole. Comment savoir que quelque chose n'est pas bien? Ben, c'est Dieu qui le dit dans sa parole. Par la suite, vous devez arrêter de vous dire « J'ai le droit à l'impureté ». Ceci, c'est le libertinage. Les Corinthiens pratiquaient le libertinage. Les chrétiens à Corinthe. Et les païens de Corinthe. Vous n'avez pas le droit à l'impureté. Il faut l'accepter. Vous devez vous dire non, je n'ai pas droit à l'impureté. Ensuite, vous devez mettre de la distance entre vous et vos anciennes habitudes. Séparez-vous des désirs et pratiques du monde. Et enfin, vous devez commencer à pratiquer ce qui est moralement bien. Donc, quand je dis moralement bien, je dis vis-à-vis de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous donne ce qu'il ne faut pas, ce qu'il faut. Donc, on va regarder quelques exemples concernant la vie chrétienne. Juste, j'ai mis quatre, parce que dans quatre petits versets, il y a tout un livre à ce sujet. OK? Romains chapitre 13, verset 13. Donc, je ne vais pas tout lire, c'est verset 13 et 14 d'ailleurs, mais je lis le grand partie du verset 13. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et des livronneries et de la luxure et de la débauche. Colossiens chapitre 3, verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Donc, le vieil homme, c'est l'autrefois. OK? 1 Pierre chapitre 4 et verset 15. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Donc, si on souffre parce qu'on fait ces choses-là, c'est juste. Mais on ne devrait pas faire ces choses. Pas de meurtre, pas de vol, pas de malfaiteur, pas s'ingérer dans les affaires des autres personnes. Et puis, Éphésiens chapitre 5 et verset 3, que l'immoralité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Donc, c'est normal que les saints que nous sommes, que les saints ne pratiquent pas ces choses-là que j'ai lues là. Hein? C'est verset 10, clairement, que le Seigneur attend à ce que les croyants abandonnent les impuretés, telles que, donc dans la liste, la cupidité, les mensonges, les immoralités sexuelles, j'ajoute la pornographie, les vols, j'ajoute les drogues, l'ivrognerie, etc. Ce ne sont pas les façons que les chrétiens doivent vivre. Dieu veut notre cœur. Ça veut dire qu'il veut le 100%. Il nous veut intégralement. Il veut que nous nous soumettons, mais volontairement, à sa volonté divine. Ceci est la signification de ce que Jésus a dit à ses disciples, je dis bien à ses disciples, dans Matthieu chapitre 10, verset 39. C'est aux disciples qu'il parle. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Et puis dans Jean chapitre 12, verset 25, Jésus dit aussi, il dit, donc je lis verset 24 et 25, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Donc, il y a une application que Jésus fait ailleurs à lui-même. Mais là, il parle à ses disciples. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et c'est ça, Dieu veut qu'on porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. On va lire aussi le verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. Qu'est-ce que vous avez que vous pouvez perdre pour Dieu? C'est ça qu'il a dit. Hein? C'est lui qui perd sa vie pour Dieu, va la récupérer. Donc qu'est-ce qu'on peut perdre pour Dieu? Il y a premièrement votre temps. Vous pouvez perdre votre temps, c'est-à-dire le sacrifier à Dieu. Vous pouvez perdre votre corps. Vous pouvez perdre vos pensées. Consacrer vos pensées à Dieu. Vous pouvez perdre votre famille. Vous pouvez perdre vos biens matériels et vos richesses. Ce sont toutes des choses que Dieu nous donne, qui sont à notre disposition, et que nous pouvons utiliser selon notre plein gré ou notre gré. Mais voilà que on met Dieu en premier et on utilise ce que Dieu nous donne d'après la volonté de Dieu en premier. Et je mets un petit bémol là pour nous, parce que vraiment, nous, on habite une époque de richesse superflue. Okay? Donc, le prophète Osée, il a bien montré qu'il est impossible pour Dieu de bénir le croyant qui fait le mal. Si nous vivons dans l'impureté, Dieu ne peut pas nous bénir. Il veut nous bénir. Mais il faut qu'on se mette en règle avec lui. Je ne parle pas du salut, je parle de notre marche de tous les jours, le quotidien. Il faut qu'on soit en règle avec Dieu pour que Dieu puisse nous bénir. Parce que la réalité, c'est qu'il y a toujours des conséquences à nos péchés. Si nous choisissons, malgré tout, de vouloir vivre dans l'impureté et dans le péché, il y a des conséquences. Et ce n'est pas bien. Voilà, donc, Dieu est saint. Il n'a jamais changé. Il sera toujours saint. Il ne changera jamais. Jacques dit, il n'y a même pas une ombre de variation. Dieu est stable. Il ne change pas. Cependant, Dieu est intervenu pour sauver les pécheurs. Dans la personne de son Fils, Dieu a porter sur la croix la condamnation de nos péchés. Puis il a vaincu la mort par sa résurrection. Et la Bible dit clairement, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Le sang de Christ ne nous excuse pas de nos péchés. Il n'y a pas un truc là, voilà, vous pouvez pécher. Parce que Jésus est mort, vous pouvez faire comme vous voulez, vous pouvez faire tous les péchés. Non, ça, ce n'est pas marqué comme ça. Mais son sang nous purifie de nos péchés quand même. Dans sa bonté, Dieu appelle ceux qui ont confiance en son Fils par un titre. Et ce titre, c'est les saints. Il sait que tous les jours, nous continuons de lutter contre l'impureté de notre humanité. Ça, c'est la vérité, c'est le quotidien. Mais ceci ne l'empêche pas de nous voir purifiés en son Fils. Il nous voit comme ça, donc il nous appelle les saints. Lavés dans le sang de l'agneau, Dieu nous appelle aujourd'hui ce que nous serons à travers l'éternité dans sa présence. Nous serons et nous sommes les saints. Choisissez, c'est ça mon exhortation, choisissez de marcher dans la sainteté. C'est la voie de Dieu. Donc je récupère les versets qu'on a vus auparavant. Soyez saints, dit Dieu, car je suis saint. Il a dit, soyez saints pour moi, Dieu a dit. Comme une expression, donc, de votre amour pour Dieu. Donc, j'espère que ça vous donne des choses pour réfléchir. Je trouve que c'est très important que les chrétiens réfléchissent sur leur vie de tous les jours, sur Dieu en tant que le Dieu saint, et sur nos vies. Est-ce qu'on correspond à ce que Dieu attend de notre part? Amen. Amen.